Bonjour à tous et meilleurs vœux. Hein. Voilà, on se l'a dit un petit peu au début, mais je pense que c'est important qu'on se le dise et j'espère voilà, sincèrement aussi. Et si je voulais commencer par ce cantique, c'est aussi bon, évidemment en rapport avec la façon dont je voudrais traiter le texte qu'on va voir aujourd'hui, avec cette question de l'espérance. Et je pense une question qui, en début d'année, peut nous porter aussi, nous pousser à réfléchir sur là où nous plaçons notre espérance, le fait que Dieu vient nous encourager aussi, et j'espère par ce texte aussi nous encourager à considérer là où nous mettons notre espérance. Et donc nous commençons l'année avec un nouveau cycle dans l'étude de l'Évangile selon Luc. Vous vous rappelez, le dernier cycle que nous avons étudié portait plus principalement sur les résurrections dans l'Évangile selon Luc. Et le nouveau cycle que nous commençons aujourd'hui porte plutôt sur les paraboles. Et les paraboles sont des... paraboles dans l'Évangile, c'est assez récurrent, c'est une forme littéraire qu'on trouve assez régulièrement et qui vient pour enseigner des vérités, ce sont des vérités spirituelles, des vérités morales, à l'aide d'une courte histoire dont Jésus souvent tire des enseignements à partir d'histoires qui sont basées sur la vie quotidienne, sur la nature, sur des observations. Et puis Jésus tire des principes ou des leçons de ces paraboles. Ou en tout cas, il nous encourage à tirer des leçons de ces paraboles. Et souvent, c'est assez simple dans la façon dont c'est raconté. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une parabole, vous verrez, qui est un petit peu différente, mais je vais commencer par la lire. Donc on l'a dit en introduction, hein, c'est la parabole qui se trouve dans le chapitre 16 de l'Évangile selon Luc, qu'on appelle souvent la parabole de Lazare et de l'homme riche, la parabole du riche et de Lazare. Bon, il y a différentes manières de l'appeler. Alors, il y a deux personnages, un riche et Lazare, et puis on verra qu'il y a aussi d'autres personnages qui sont autour d'eux. Donc c'est chapitre 16, à partir du verset 19. Or il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin et qui faisait joyeuse chair chaque jour splendidement. Et il y avait un pauvre nommé Lazare couché à sa porte, tout couvert d'ulcères, et qui désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Mais les chiens aussi venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et le riche aussi mourut, et fut enseveli. Et en Hadès, levant ses yeux, comme il était dans les tourments, il voit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et s'écriant, il dit : « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt, et qu'il rafraîchisse ma langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham dit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement les maux. Et maintenant, lui est consolé ici, et toi, tu es tourmenté. Et outre tout cela, un grand gouffre est fermement établi entre nous et vous, en sorte que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, et que ceux qui veulent passer de là ne traversent pas non plus vers nous. » Et il dit : « Je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, en sorte qu'il les adjure, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. » Mais Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Mais il dit : « Non, père Abraham, mais si quelqu'un va des morts vers eux, ils se repentiront. » Et il lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas persuadés non plus si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » J'arrête ici la lecture. C'est une parabole qui est assez différente de celle dont on a l'habitude et qui ne se trouve en tout cas que dans l'Évangile selon Luc. Alors c'est dommage, les fêtes sont passées, mais si vous voulez faire bien, on peut dire que ça appartient aux Sondergut de Luc. Ça, c'est le mot qu'on utilise pour dire ce qui est particulier à l'Évangile selon Luc. Ça fait toujours bien d'utiliser des mots savants. Ça veut dire la spécificité de Luc. Et il n'y a que là qu'on la trouve et pas dans les autres évangiles que l'on a. On a vu, hein, c'est une histoire qui met en scène donc, un riche qui est habillé somptueusement, qui vit dans le luxe, qui mange bien. Et puis il y a ce pauvre, Lazare, avec ses ulcères, et qui meurt à la porte du riche. Et puis après leur mort, donc, ils sont transportés dans l'au-delà, hein, l'un dans le sein d'Abraham, et puis l'autre dans le Hadès. Et puis il est tourmenté là-bas, le riche. Et puis le riche supplie Abraham donc, d'essayer de permettre à Lazare de le soulager, d'avertir ses frères, etc. Mais on comprend que tout cela est trop tard et les demandes sont rejetées. Alors, cette histoire qui est surprenante, souvent est appelée une pseudo-parabole. Je vous dis, elle est un peu particulière, c'est pas une histoire tirée de la nature, etc. Elle est différente des autres paraboles, déjà parce qu'il y a un nom propre. On appelle Lazare, Lazare, il a un nom. Alors que d'habitude, c'est un semeur, un berger, un fils cadet, etc. Bon, il y a différents personnages, mais c'est rare qu'il y ait un nom comme ça. On verra ce qu'on peut faire de ce nom, qui est un peu différent des paraboles classiques. Et puis, ça semble très réel. Peut-être que Jésus, dans sa mention de ce qui se passe après la mort, ou quand il mentionne le sein d'Abraham, va peut-être au-delà de simplement une histoire qui est tirée comme ça des choses observées dans la nature, mais on a l'impression qu'il y a peut-être une vision ou une description d'une réalité spirituelle de ce qui se passe après la mort. Et là aussi, on s'interrogera sur la dimension réaliste de cette parabole. Et dans la structure narrative, on voit aussi que voilà, c'est plutôt un récit qu'une parabole classique. Bon, je ne vais pas faire une analyse comparée, mais voilà, dans la façon dont c'est organisé, on voit que cette histoire elle semble plus spécifique que les paraboles d'habitude où il y a plutôt une portée universelle. Là, on a vraiment l'impression de quelque chose de spécifique. Et c'est important de regarder aussi le contexte dans lequel s'inscrit cette parabole. Elle s'inscrit dans un contexte d'enseignement sur la gestion des richesses et les questions de la fidélité. C'est dans le chapitre 16, on a d'abord la parabole de l'intendant habile, qui met l'accent sur l'importance d'utiliser les biens terrestres avec sagesse, avec fidélité envers Dieu. Ça, c'est le début du chapitre 16. Et puis, ensuite, Jésus enseigne que nul ne peut servir deux maîtres. Et ça, c'est quelque chose qu'il adresse spécifiquement aux pharisiens, juste avant le passage qu'on vient de lire, où il y a cette question de voilà, les richesses, comment les utiliser. Et Jésus met en garde contre servir les richesses par rapport à servir Dieu et en disant on ne peut pas être serviteur de deux maîtres à la fois. Et Jésus s'adresse à une foule qui comprend à la fois des disciples et puis des pharisiens. Et souvent les pharisiens sont vus comme s'attachant aux richesses matérielles, mais aussi comme étant des gens qui sont spirituellement riches. Et on verra comment Jésus traite cette richesse spirituelle et la façon dont cette parabole nous parle aussi, non pas seulement de richesse matérielle, mais de cette richesse spirituelle et la façon dont nous l'utilisons. Et donc on tirera plusieurs leçons hein, sur à la fois la justice divine, la responsabilité que l'on a envers les autres, et puis l'inévitabilité du jugement. Et la façon dont je vous disais hein, que je voudrais traiter la façon dont je voudrais traiter cette parabole, c'est la façon dont elle met en garde contre l'infidélité dans l'utilisation des ressources terrestres, contre l'égoïsme, contre l'aveuglement spirituel, et aussi la façon dont elle présente l'espérance ancrée non pas dans les richesses, mais dans les promesses de Dieu, et dans la façon dont nous pouvons utiliser pour le bien les richesses aussi spirituelles. Et donc j'ai organisé ma réflexion, ou ce message, en trois parties. D'abord, sur l'illusion ou les illusions de l'espérance terrestre. Dans un deuxième temps, on verra l'espérance véritable, avec cette perspective éternelle. Et en troisième point, l'espérance fondée sur la parole de Dieu. Et donc je commencerai par les tout premiers versets de cette parabole, avec les illusions de l'espérance terrestre et le contraste entre l'homme riche et le pauvre Lazare. Alors, ce qui caractérise le riche d'abord, c'est, on comprend bien, hein, sa fausse espérance dans des biens matériels. Il incarne une vie qui est entièrement tournée vers sa satisfaction personnelle, son opulence, son confort terrestre, même si c'est en trompe-l'œil. En tout cas, c'est là qu'il a placé tous ses biens, toute son espérance dans ses biens. Et il pense que ces biens vont lui garantir son bonheur, sa sécurité, y compris après la mort. Et il y a deux choses qui caractérisent le riche, hein, si on relit le verset 19. Ses vêtements, vêtus de pourpre et de fin lin, des habits somptueux. Et puis son régime alimentaire, hein, il fait joyeuse chair chaque jour, splendidement. Et ça fait écho à d'autres passages de l'Évangile où on nous met en garde contre ceux qui... Alors c'est par exemple Hérode, hein, on parle de lui en disant qu'il est vêtu magnifiquement et qu'il vit dans les délices. C'est au chapitre 7. Donc il y a exactement la même caractérisation des riches, hein, qui s'habillent bien et qui vivent dans cette opulence, et ça se voit dans la manière dont ils mangent même. Et on sait que Jésus invite les disciples à prier pour notre pain de ce jour. Il nous invite à prier pour notre pain de ce jour. Et lui, au contraire, il a pour chaque jour de quoi faire plus que le nécessaire. Et ça, c'est vraiment le contraste entre le riche et les autres. C'est qu'il a de quoi faire bombance, en quelque sorte. Et pourtant, Jésus vient d'avertir contre le fait qu'on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Et le riche, lui, par contre, voilà, il semble avoir choisi de servir Mammon, l'argent. C'est ça son maître. Et la parole avait déjà averti, hein, dans tout l'Ancien Testament sur le fait que celui qui se confie dans ses richesses tombera, par exemple. Ça, c'est un verset qui est tiré du livre des Proverbes. Et donc, on voit que c'est un personnage à qui, certainement, on va avoir des choses à reprocher. Et ça peut nous parler de notre monde, hein, dans lequel on voit, dans une société consumériste, où on accumule beaucoup de possessions, et bien que pour certains, ça va être la clé de l'épanouissement. Oui, j'achète encore quelque chose et puis je serai heureux. Et bien en fait, ça ne s'arrête jamais. On veut toujours plus. Et ça nous rappelle que bah, voilà, les richesses terrestres, elles ne peuvent pas nous combler. Et puis ce sont des choses éphémères, comme on va le voir dans cette parabole, et incapables de nous sauver. Mais on peut aussi voir le riche autrement. Et je disais, il n'y a pas simplement une alerte par rapport aux richesses terrestres, mais il y a peut-être quelque chose par rapport aux richesses spirituelles. Jésus parle aux pharisiens, il parle aux scribes, il parle à ceux qui ont ces responsabilités dans le peuple, et ils sont riches parce que spirituellement ils ont une place particulière et qu'ils ont été richement enseignés, et ils ont cette responsabilité par rapport au peuple. Et ce qu'on voit souvent dans les évangiles, c'est que finalement ceux qui sont riches spirituellement, malheureusement, sont tombés dans une sorte d'orgueil spirituel. Et ils finissent par mépriser les autres, les gens de la terre, ceux qui ne peuvent pas comprendre. Et ils gardent pour eux cette richesse spirituelle et cachent en réalité les choses qui sont contenues dans la parole à ceux qui sont plus pauvres, parce qu'ils n'ont peut-être pas accès à la lecture, par exemple, parce qu'ils n'ont pas eu accès à l'enseignement auquel eux, les riches, ont eu accès, les riches spirituellement. En contraste, Lazare, lui, il a une espérance qui est cachée, mais qui est solide, malgré sa pauvreté. Alors, je disais, pourquoi on l'a nommé dans cette parabole ? Pourquoi l'appeler Lazare ? Pourquoi ne pas avoir simplement dit un pauvre ? Alors, je n'ai pas forcément de réponse définitive, mais j'ai essayé de trouver quelques suggestions. Déjà, par rapport à ce que signifie ce nom. Ça veut dire « Dieu aide ». Et donc, on comprend tout de suite, parce qu'il est nommé ainsi, qu'il place sa confiance, non pas dans les hommes, mais en Dieu, dans le Seigneur. Et même s'il est oublié des hommes, il sait qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Donc c'est peut-être une explication de pourquoi on l'appelle Lazare. Certains disent que, puisqu'il y a une mention d'Abraham, alors il faut comprendre Lazare dans son sens hébreu et le nom d'Éliézer, qui était l'entourage d'Abraham, hein, qui était l'héritier présomptif d'Abraham avant la naissance d'Isaac, Éliézer serait vu là à travers ce pauvre Lazare, et Éliézer dans le sens où il est finalement le représentant des gentils, des non-juifs. Et donc Lazare serait un représentant des non-juifs et incarnerait donc tous ces gentils qui n'ont pas de place a priori dans le royaume, puisqu'ils ne sont pas dans la descendance d'Abraham. Mais finalement, à cause de ce renversement qu'on a souvent dans la parole, hein, et souvent, surtout dans l'évangile selon Luc, les gentils qui finalement vont prendre la place des enfants, vont devenir les enfants dans le royaume. Bon, c'est une interprétation que j'ai lue, qui n'est pas forcément définitive, mais qui, pourquoi pas, dans le sens où on voit bien que là, Lazare va avoir une place particulière et va pouvoir entrer dans la présence de Dieu, alors que ce n'est pas forcément ce qu'on aurait attendu au départ. Et donc ça fait écho à d'autres renversements dans la parole par rapport à ceux qui étaient exclus et qui finalement ont leur place dans le royaume. En tout cas, ce qui caractérise ce Lazare, c'est qu'il est couvert d'ulcères. Il est malade. Et il souffre. Il souffre, ça se voit particulièrement dans le fait que, comme le fils prodigue, il n'a plus rien. Il est, voilà, au niveau de la terre, hein, il est vraiment... voilà, ça se voit physiquement sur lui qu'il n'a plus rien. Et un peu comme le fils prodigue, il veut ramasser les miettes. Il veut avoir un petit peu, un petit quelque chose. Ce qu'il aimerait, c'est non pas être à la table du riche, mais simplement avoir les miettes qui tombent de la table. Et même ça, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à obtenir ses miettes. On le voit là qui rampe sous la table, et finalement, il est au niveau des chiens. Et il y a seulement les chiens qui acceptent d'être dans la présence de ce pauvre, de Lazare, et qui viennent lécher ses plaies, ses ulcères. Alors, il y a cette pauvreté qui se voit physiquement, pauvreté matérielle, mais aussi, puisque je disais qu'il y a une interprétation symbolique aussi qui est possible de cette histoire, une pauvreté par rapport aux riches spirituellement. Et Lazare représenterait ceux auxquels les chefs religieux, justement, refusent de donner les privilèges, la nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Et finalement, ce sont des gens qui sont venus vus comme tout, voilà, juste bons à tenir compagnie aux chiens, rejetés. Et pourtant, Lazare, on voit, il a faim, il a soif, spirituellement, et il aimerait recevoir quelque chose qui tombe de la table du riche. Et ça, ça nous parle de ces pauvres en esprit dont parle souvent Jésus. Heureux les pauvres en esprit, vous savez, dans les Béatitudes. Et Lazare, symboliquement, représente ces pauvres en esprit. Et je ferai plusieurs fois un parallèle entre ce passage et puis le sermon sur la montagne, ou en tout cas sa version qu'on peut trouver dans l'évangile selon Luc, parce qu'il me semble qu'il y a des échos très forts entre ce que dit Jésus ici et ce qu'il a déjà dit auparavant. Et donc, on peut retenir voilà, ce passage du chapitre 6 de l'Évangile selon Luc, au verset 20, où Jésus avait dit « Bienheureux, vous pauvres, car à vous est le royaume de Dieu. Bienheureux, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Bienheureux, vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. » Et le pauvre, c'est celui-là, c'est Lazare ici qui est peut-être voilà, l'incarne dans cette histoire. Alors ça nous dit que Jésus et Dieu, Dieu pense aux pauvres. Il a cette attention pour les pauvres, il veut les aider. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, ça nous invite à nous rappeler que voilà, Dieu ne nous oublie jamais. Et même que lorsque le monde nous ignore, nous rejette, parce que nous sommes croyants, parce que nous voulons approcher de Dieu, et c'est incompatible avec ce que le monde nous propose, et bien même lorsque le monde nous ignore, et bien Dieu pense à nous, comme il pense à Lazare, comme il est là pour Lazare, comme il veut l'aider. Donc voilà ces deux personnages, et il leur arrive exactement la même chose, les deux meurent. Et après la mort, on verra que les rôles s'inversent. Alors, le pauvre meurt d'abord, hein, Lazare. Lazare meurt et il est porté dans le sein d'Abraham. Alors ça, j'ai passé de bonnes vacances, hein, mais j'ai aussi réfléchi à ce que vous voulez dire le sein d'Abraham. Et c'est pas évident quand on trouve une expression comme ça, on se dit, mais alors qu'est-ce que ça veut dire? Le sein d'Abraham, parfois on lit ça et puis on pense un peu vite, bah oui, il meurt, puis donc il va voir voilà, les patriarches. Mais finalement, on se demande un peu ce que fait Abraham dans cette histoire. Pourquoi tout d'un coup Abraham est mentionné? Alors, peut-être se replacer dans le contexte juif, qui est le contexte d'écriture et le contexte où vivait Jésus. Essayer de comprendre Abraham comme celui qui représente l'espérance des croyants fidèles. Comme Abraham lui-même, qui finalement, on sait, hein, c'est une citation de l'Épître aux Hébreux, hein, Abraham qui attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur, etc. Abraham, c'est celui qui est fidèle, celui qui représente les croyants fidèles. Et dans la tradition juive, ce que j'ai lu, hein, c'est que dans des écrits qu'on appelle parfois apocryphes ou des pseudépigraphes, c'est-à-dire toute cette littérature qui était autour de la Bible, hein, qui n'est pas le texte qu'on reçoit dans le canon, qui n'est pas le texte de la Bible, mais qui était quand même des textes connus et qui circulaient chez les Juifs, il y avait la mention d'Abraham comme l'un des justes qui pouvait accueillir les sauvés après la mort. Donc, vous savez, parfois on a ces représentations qui ne sont pas du tout justifiées par la Bible, on dit « Saint-Pierre accueille les morts ». Bon. C'est pas justifié bibliquement, et ce n'est pas une pensée qu'on peut véritablement vérifier dans la Bible, mais il y avait cette idée qu'Abraham jouait un peu ce rôle pour les Juifs. Abraham accueillant les morts dans la présence ensuite de Dieu. En tout cas, accueillant les sauvés après la mort. Et finalement, Jésus semble un peu valider cette vision, parce qu'il dit, je prends un exemple, hein, au chapitre 13, verset 28-29, quand il parle de ce qui se passe après la mort, hein, il dit « Là seront les pleurs, les grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, mais vous jetez dehors. » Bon. Il y a cette même vision des patriarches qui accueillent les sauvés, et puis ils sont visibles par les autres qui ne sont pas sauvés. On les voit au loin. Donc c'est quelque chose qui est dit à plusieurs reprises, donc visiblement par Jésus, de cette vision de ce qui se passe après la mort. Et donc Abraham est celui qui accueille les sauvés, avec les autres patriarches. Alors voilà, Lazare meurt, et on le voit accueilli, donc porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et puis, ce qui est frappant, c'est qu'on a quand même... donc tout ce verset sur cet accueil qui est donné à Lazare. Et alors là, par contre, la mort du riche, elle va très vite. Hein. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Donc il n'y a pas du tout le même traitement, le même accueil. Il meurt, il est enseveli. C'est très bref. Il n'y a pas de cérémonial particulier. Et il arrive dans le Hadès. Alors, pour ceux qui croyaient à la résurrection, le Hadès, c'est... pour les Juifs, hein, l'état intermédiaire, peut-être, avant le jugement dernier. Une sorte d'attente avant le jugement dernier. Et ce qu'on comprend, c'est que pour le riche, ça va être un endroit peu agréable, puisqu'il est caractérisé par les flammes, une soif inextinguible, puisqu'il demande à ce que Lazare vienne apaiser cette soif, et puis cette vision qui est très douloureuse de voir Lazare dans le sein d'Abraham, alors que lui, le riche, n'y a pas accès. Et donc cette souffrance, voilà, elle prend trois formes, mais elle est bien présente pour le riche. Et donc le riche, il appelle « Père Abraham ». Il voudrait que, voilà, qu'on puisse le soulager dans cette souffrance. Il demande de l'eau pour se rafraîchir. Alors, je vous disais, il y a une question qui se pose. Est-ce que c'est une description fidèle? Puisqu'on parlait de pseudo-parabole, est-ce que ce qui est décrit ici représente fidèlement ce qui va se passer après la mort? Alors, ce n'est pas l'interprétation moderne, honnêtement, depuis pas mal de temps déjà, mais on a un peu arrêté de penser que c'était une représentation exactement fidèle de ce qui allait se passer après la mort, parce que ce n'est pas le but premier de Jésus que de nous faire une description précise de ce qui se passe après la mort. Pourtant, je viens de vous lire un passage où, finalement, Luc déjà, Jésus dans l'évangile selon Luc, fait appel à des images qui sont semblables, donc il semblerait y avoir une confirmation qu'il y a bien quelque chose de réaliste. Donc, voilà, avec prudence, moi je dirais qu'il ne faut pas complètement rejeter le fait que ça puisse être une description, même si il faut retenir que ce n'est pas l'objectif principal que de faire une description. Vous voyez donc, vous allez dire, je tranche pas vraiment, mais parce que je n'ai pas le moyen de trancher, simplement, voilà, je prends en compte le contexte en disant, ouais, ce n'est pas l'objectif premier, mais puisqu'il y a des échos dans d'autres textes, on ne peut pas rejeter complètement l'interprétation réaliste. Et puis, surtout, il y a d'autres textes juifs qui voilà, font écho à cette description du Hadès, et donc on peut en retirer quelque chose. Toujours est-il que, puisque je disais, ce n'est pas l'objectif principal, je ne vais pas m'attarder sur la géographie du Hadès, mais retenir plutôt la façon dont les événements se déroulent. Et la réponse d'Abraham, ensuite, c'est de s'adresser au riche en lui disant « mon enfant ». Et quand le riche lui demande hein, « est-ce que je pourrais être rafraîchi ?» Abraham lui dit « mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens ». Alors, mon enfant, pourquoi mon enfant, puisqu'il est rejeté? Alors, peut-être déjà tout simplement parce que le riche l'avait appelé père. Il l'appelle père, et donc la réponse logique, c'est de dire mon enfant. Mais aussi parce que c'est un mot récurrent, une expression récurrente dans l'évangile selon Luc pour appeler ceux qui ont résisté à la grâce de Dieu. Et on voit souvent ce terme qui est pourtant voilà, est assez intime. Mais qui en revanche, ne signifie pas nécessairement l'adoption. Et alors, la réponse d'Abraham, elle est surprenante, parce qu'on dirait l'évangile de la prospérité, mais à l'envers. Y aurait une sorte de vertu inhérente aux difficultés de Lazare, et puisqu'il a beaucoup souffert, alors il est porté dans le sein d'Abraham, et il est sauvé, il est accueilli. Et au contraire, le riche, lui, avait beaucoup, et il est rejeté dans l'éternité. Alors, l'inverse de ce qu'on nous dit parfois, hein, si vous êtes riche ici, vous savez, l'évangile de la prospérité, c'est pour ça que je dis renversé, l'évangile de la prospérité, c'est si vous êtes riche, alors vous serez... C'est parce que vous êtes béni, ça veut dire que vous êtes sauvé. Fausse pensée, hein, je veux dire, c'est quelque chose de très tendancieux. Mais, voilà, il y aurait une sorte de preuve du salut par la bénédiction... dans les richesses, et bien là, c'est l'inverse. On a été riche, puis du coup, on est rejeté. Pour autant, moi, je dirais, attention, on ne peut pas en tirer quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce qu'on a été pauvre qu'on sera nécessairement sauvé, ce n'est pas parce qu'on a été riche qu'on sera nécessairement rejeté. Donc, ça semble comme ça, mais attention, déjà parce qu'Abraham, lui-même, il a été riche. Ça, on l'a bien vu quand on a lu la Genèse, hein, vous rappelez, la Genèse nous parle bien des richesses d'Abraham, donc ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'Abraham lui-même a été riche. Et puis ce qui est en jeu, finalement, ce ne sont pas tant les richesses, mais le fait qu'Abraham dit « tu as eu ton bien, tu as reçu tes biens pendant ta vie ». Et c'est peut-être pas les biens qui venaient de Dieu. Il ne lui dit pas « tu as reçu toutes les bénédictions de Dieu », il dit « tu as eu ton bien, tu as eu tes biens ». Tu t'es accumulé ta richesse pendant ta vie. Et ben non, il manquait quelque chose. Il manquait le fait de dépendre de Dieu dans ses richesses. Ce n'étaient pas les richesses que Dieu lui avait données comme à d'autres, dans d'autres paraboles où on voit qu'ils reçoivent quelque chose de Dieu. Lui, il s'était accumulé pour lui-même des choses. Et donc finalement, ce que condamne Abraham et ce que condamne donc Jésus par son intermédiaire, hein, ce ne sont pas tant les richesses, mais le fait que le riche a vécu une vie loin de Dieu et une vie inhospitalière, où il n'a fait aucune place à Lazare. Et vous vous rappelez, c'est pour ça que je faisais ce parallèle avec les richesses spirituelles et la position des pharisiens, ils refusent de partager, ils refusent de donner à ceux qui en ont besoin, à ceux qui ont soif, qui ont faim, qui réclament pourtant d'être bénis, d'être enseignés, d'avoir accès à la parole de Dieu, d'avoir accès à toutes ces richesses spirituelles. En les gardant pour eux, en refusant cette hospitalité, ils se sont rendus coupables. Et c'est ça qui est condamné, et pas tant la richesse elle-même. Et ce qu'on voit, c'est que aussi le contraste entre la vie terrestre et l'éternité montre que Dieu voit et juge toute chose avec justice. Et pour ceux qui, comme Lazare, souffrent parce qu'ils n'ont pas accès à ces richesses, que ce soit matérielles ou spirituelles, l'espérance, elle réside dans la promesse que Dieu voit et Dieu traitera toute chose justement. Dieu essuiera toute larme. Vous savez, cette vision dans l'Apocalypse, hein, où toutes larmes sont essuyées. Et bien là, voilà, il y a ce traitement de Lazare qui montre que Dieu a prêté attention et va lui donner ce qu'il désire, la présence de Dieu. Alors, il y a une chose qui apparaît aussi très, très nettement dans la façon dont les choses se déroulent, c'est qu'une fois que la mort est arrivée, eh bien, c'est définitif. Et le jugement est irréversible. Et là, il y a cette mention d'un grand gouffre qui sépare les deux parties de la scène. Il y a le gouffre entre là où se trouve le riche et là où se trouvent Abraham et Lazare. Et ceux qui sont rejetés peuvent voir, mais ils n'ont plus accès. Et ça nous dit que, voilà, il y a ce fossé qui est lié à un enfermement dans les plaisirs matériels qui étaient ceux du riche. Un enfermement dans l'oubli de l'autre qui crée ce fossé entre nous et les autres. Si on oublie d'aimer, on se rend incapable d'aimer. Et ça devient, après la mort, une soif ardente. Mais maintenant, après la mort, c'est trop tard. Celui qui a soif, il ne peut plus être rassasié, il ne peut plus, sa soif ne peut plus être éteinte parce qu'il y a ce fossé qui est infranchissable. Le riche ne peut plus améliorer sa situation. Et alors, il voudrait que finalement, puisque il essaye, hein, il voudrait encore que Lazare soit son serviteur, lui apporte de l'eau, c'est impossible. Et donc on a vu, hein, il aimerait que finalement Lazare, puisqu'il ne peut pas faire ça, aille voir ses frères. On dit, il est généreux finalement. Il voudrait avertir ses cinq frères. Mais là encore, c'est trop tard. Alors, je sais pas, vous connaissez l'expression le FOMO ? Je pense que oui. On l'utilisait il y a quelques années, peut-être que c'est maintenant je suis dépassé. FOMO, le fear of missing out, c'est quand on ne fait pas de choix parce que on pense toujours qu'il y a peut-être mieux qui va arriver. Et vous savez, c'est quand Joël envoie un sondage et puis qu'on répond pas parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir venir. Et parce que peut-être on aura une autre chose à faire au même moment. Eh bien, finalement, ça marche peut-être avec les sondages de Joël, mais là, ce que Dieu nous dit, c'est que, par contre, en ce qui concerne la vie éternelle, attention, il ne peut pas y avoir de FOMO. L'appel, il est là, pendant notre vie terrestre, et après la mort, on ne peut pas se rendre compte que finalement, on n'avait rien de mieux à faire. Et que passer l'éternité dans la présence de Dieu, c'est finalement ce qu'on aurait aimé, mais qu'on n'avait pas fait ce choix pendant notre vie. Et il y a une urgence, et s'il y a une seule urgence dans notre vie, c'est d'être fidèle aujourd'hui, parce qu'après la mort, nos priorités, elles ne pourront plus changer. Ce qu'on aura fait ici, notre destin aura été scellé. Pas de deuxième chance, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, doit être, voilà, on doit en être conscient, et j'espère que pour nous, le choix sera fait, s'il n'est pas déjà fait. Et on peut louer Dieu de ce que notre choix, par sa grâce, a été fait. Mais encourageons nos contemporains à faire ce choix, parce qu'on a une mise en garde qui est très claire sur le fait qu'après la mort, on n'aura pas la possibilité de faire à nouveau un choix. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on entend souvent, parfois en tout cas, moi j'ai déjà entendu, des gens qui disent « mais ça serait tellement plus simple, si Dieu, finalement, nous envoyait à nouveau quelqu'un du monde des morts pour nous dire comment c'est, et puis surtout, avertir, voilà, pour dire « faites le choix maintenant, après c'est trop tard ». Et si un mort revenait, peut-être que l'évangile serait beaucoup plus simple à annoncer, n'est-ce pas ? Mais sauf qu'en fait, ce que dit la parole, premièrement, c'est que c'est impossible. Il n'y aura pas de nouvelle résurrection. Et que, finalement, la parole en elle-même est suffisante. Et ça, c'est très frappant. Hein. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et ça, c'est, je trouve, assez fort. Et ça nous rappelle ce que dit Jésus à d'autres moments. Il dit « celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende », etc. Pour nous montrer que la parole de Dieu, ce qui est dit, est suffisant. Et la foi ne dépend pas tellement de la question de la résurrection. Elle dépend de si on a apporté foi à ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont sauvés, ce sont ceux qui écoutent la parabole, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui écoutent ce que Jésus dit. Et comme les prophètes, comme les cinq frères, on doit écouter la loi et les prophètes, et c'est là que se trouvent les enseignements les plus importants. Et ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire, c'est que aussi, ce qui est important à retenir, ça a déjà été mentionné dans les Écritures hébreux. Ce n'est pas des choses nouvelles. Et ça, c'est ce que Jésus vient nous dire à chaque fois, c'est que Jésus n'est pas venu pour contredire la loi et les prophètes, mais au contraire pour accomplir. Et donc, il nous dit bien tout le temps le message qu'il vient apporter, il a déjà été donné. Et Jésus ne vient pas apporter quelque chose de fondamentalement nouveau. Il vient pour accomplir ce qui était déjà donné dans la loi et les prophètes. Parce que la loi et les prophètes ont déjà parlé de l'attitude du riche, par exemple, par rapport aux pauvres. Les dénonciations contre l'égoïsme des riches, contre l'injustice dans la société, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans les prophètes, chez Ésaïe, chez Amos. Il y a des choses très claires là-dessus. Et puis, aime ton prochain comme toi-même, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est dans le Lévitique. C'est quelque chose qui est déjà présent dans la loi, dans les prophètes. Et puis, ce que dénonce Jésus je vous avais dit, ce n'est pas simplement les richesses matérielles, mais sur l'hypocrisie des pharisiens, c'est quelque chose qu'il dit aussi au chapitre 6. Et j'avais lu tout à l'heure le début de ce sermon sur la montagne dans sa version dans Luc, « Bienheureux, vous, pauvres, etc. » en disant que ça renvoie à Lazare. Eh bien, le contraste, il existe aussi par rapport aux riches. Et il y a tout ce passage à partir du verset 24 du chapitre 6 où Jésus a ses paroles sur les riches. « Malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous mènerez deuil et vous pleurerez. » Et ces paroles, elles font écho directement. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de parallèles entre le sermon sur la montagne et ce qu'on a lu ici. Ça fait écho directement à l'attitude du riche qui s'est rassasié dans ses propres biens, mais qui finalement à laisser le pauvre à l'extérieur. Et on voit que Jésus a compassion d'eux. Hein. Malheur à vous, ce n'est pas une malédiction, mais voilà, il décrit leur état. Ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce que voilà, ils se rassasient de leurs biens, ils rient maintenant, mais ils n'ont pas cette perspective éternelle. Ils ne placent pas leur espérance en Dieu. Alors, on a parlé de la résurrection, et ça fait le lien aussi un petit peu avec ce qu'on disait la dernière fois. Et Armand nous avait montré à quel point, finalement, les résurrections dans l'Évangile selon Luc et la résurrection de Jésus elle-même, finalement, elles ne sont pas là pour être des événements spectaculaires qui vont changer absolument la foi des gens qui les observent. Et ça me semble quelque chose de très important. Notre foi, finalement, elle a changé d'objet, en quelque sorte, puisque nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons en un Dieu qui s'est incarné, Jésus qui est mort, qui est ressuscité. Mais finalement, nous avons cru, non pas tant parce qu'il est ressuscité, mais parce que nous avons cru à tout ce qu'il avait dit. Et nous croyons, entre autres, à sa résurrection. Nous croyons que Jésus est ressuscité, mais ça ne change pas le découpage de notre foi ou la forme de notre foi. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est ressuscité que c'est possible de croire, parce que tout ce qu'il a dit était déjà là et déjà suffisant. Et donc, en ressuscitant, il accomplit ce qui était promis, mais c'est pas parce qu'il est ressuscité seulement que la foi est possible. La foi sincère, la foi obéissante, elle est enracinée dans les Écritures et elle croit aussi à la résurrection, mais pas seulement parce qu'il y a eu la résurrection. Et notre fidélité, elle ne dépend pas de ces signes extraordinaires. Elle dépend de notre réponse à la parole et parce qu'on croit que la parole est vraie. Et ça annonce que l'Église primitive a vécu parce que Jésus est celui qui est ressuscité et qui est venu prêcher. Il est venu pour il est revenu des morts pour montrer et pour expliquer aux gens, aux vivants, ce qui allait se passer. Mais finalement, on voit bien dans les Actes, quand Pierre commence à prêcher la résurrection, ou les autres disciples commencent à prêcher la résurrection, que finalement, la résurrection, comme la loi et les prophètes, tout ça est rejeté. C'est pas mieux, c'est pas différent. C'est pas parce qu'il y a eu résurrection que c'est plus facile à accepter. Et l'Église primitive a vécu exactement ce que Jésus décrit ici, ce retour, Jésus revient, ressuscite, s'est prêché finalement à plus qu'aux cinq frères, et puis finalement, beaucoup ne croient pas malgré tout. Et donc ça nous montre que un miracle aussi fort que la résurrection ne suffit pas pour convaincre ceux qui ont rejeté l'Écriture. Même ce miracle qui est central dans notre foi ne convaincrait pas ceux qui refusent d'écouter la parole. Et l'espérance véritable, elle est dans l'Écriture et pas simplement dans la résurrection. Si on ne croit pas à l'Écriture, la résurrection ne change rien à l'affaire. Inversement, ceux qui croient qu'il est nécessaire de se repentir, alors oui, on voit toute la richesse de la résurrection. Et on est d'accord pour écouter ce que cela signifie. Et donc voilà, je voulais recouper avec ce qu'on avait vu, que la résurrection n'est pas le catalyseur pour la foi, pas le catalyseur de la repentance, ça nous simplement pour nous qui avons foi, qui nous sommes repentis, alors nous croyons aussi à la résurrection. Mais ça ne va pas changer les choses pour les autres. Et c'est bien la parole de Dieu qui reste centrale. Alors, pour conclure, je voulais terminer avec simplement une réflexion sur le fait que ce passage est plein d'espérance. Et il est plein d'espérance pour des gens comme Lazare, qui ont soif et qui ont faim d'être dans la présence de Dieu, de lire la parole de Dieu, d'en comprendre quelque chose, d'être dans cette présence que nous permet... Aujourd'hui, notre rassemblement entre chrétiens qui voulons nous entretenir dans cette foi, eh bien, c'est plein d'espérance par rapport à l'usage des richesses. Alors, les richesses matérielles, qui sont une responsabilité, et ça, c'est à mettre en relation avec les autres enseignements de Jésus sur les richesses matérielles, et donc une responsabilité et pas une fin en soi, on le comprend bien avec la destinée de ce riche qui n'avait pas reçu de Dieu ses richesses et n'en a rien fait, en tout cas pas pour faire le bien autour de lui. Et puis, les richesses spirituelles aussi, dont nous avons une responsabilité également, puisqu'il ne s'agit pas de les garder pour nous, mais bien de transmettre toujours aux générations suivantes, à nos contemporains, et essayer de répandre ces richesses spirituelles qui nous ont été données. Il y a aussi une urgence, je disais hein, tout à l'heure, pas de FOMO, une urgence de la repentance. L'éternité, c'est une réalité qui se prépare dès aujourd'hui. Et voilà, il y a cet encouragement et cette espérance qui est liée à cette éternité. Nous qui avons placé notre foi en Dieu, eh bien, nous sommes déjà entrés dans l'éternité et nous pouvons nous tourner en toute chose vers Dieu. Et puis, voilà, continuer à penser à qui sont les Lazares autour de nous, essayer d'identifier ceux qui ont besoin de nous et à qui nous pourrions être des riches, mais des riches, des bons riches qui viendraient pour apporter à d'autres les richesses, les partager. Et donc, voilà, je terminerai tout simplement en nous encourageant à ne pas nous appuyer sur des choses passagères, mais bien ancrer notre espérance comme nous l'avons chanté, ancrer notre espérance en Dieu, demeurer humble quant à notre richesse matérielle ou spirituelle, et puis être ces instruments de justice, ces instruments d'amour, préparer nos cœurs pour une éternité avec Dieu, mais une éternité qui a déjà commencé et dans laquelle nous trouvons déjà. Voilà, donc j'espère avoir un petit peu éclairé ce texte qui nous montre un petit peu la façon dont Jésus considère le rapport entre ce riche et puis ce pauvre, et qui nous encourage à rester humble et à demeurer en Dieu.